Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce séminaire recherche participative de la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Je suis Hélène Chauveau, je suis chargée de projet au service culture, sciences, société et j'animerai cette séance aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc pour cette sixième séance de la saison 2020-2021 en format webinaire une fois de plus avec les avantages et inconvénients que cela pose, puisque aujourd'hui on peut être transatlantique, donc voilà, c'est un avantage quand même. Donc je rappelle que ce séminaire prend place dans l'activité de la boutique des sciences de l'Université de Lyon, qui est un dispositif en fait de recherche participative qui met en lien la société civile avec le monde de la recherche et qu'on propose depuis 2019 ce temps d'échange de bonnes pratiques et de réflexion méthodologique sur le thème des recherches académiques qui sont coproduites avec les citoyens, dites donc recherche participative. Voilà, il y a d'autres acceptions, mais qu'on appelle nous recherche participative principalement. Je rappelle aussi que les séminaires de la saison dernière sont disponibles sur le site de la boutique des sciences, rubrique ressources et podcasts. Et cette année, on se retrouve donc chaque premier jeudi du mois autour d'exemples de recherche participative sur des thèmes assez variés comme le rôle de la médiation, les recherches sur les jardins, le co-design, les impacts des boutiques des sciences, vous pouvez le voir dans notre programmation qui est à retrouver sur notre site Boutique des Sciences. Et notre prochaine séance aura lieu le 6 mai et proposera un retour d'expérience de deux boutiques des sciences africaines avec des interventions de l'Institut Pasteur de Tunis et de l'Université de Dakar. Je vous mettrai le lien avec les informations et les possibilités d'inscription dans le chat pendant le séminaire. Et donc aujourd'hui, pour ce mois d'avril, je suis très heureuse d'accueillir et d'aborder le projet Culture Inclusive. Et pour ce faire, j'accueille donc William Giacomo Bauchemin, qui est chercheur et médiateur chez Execo à Montréal. Donc n'hésitez pas à lui poser vos questions dans le chat pendant tout le déroulé de l'intervention avec le logo conversé. Merci éventuellement aussi d'éteindre vos micros, vos caméras si vous le souhaitez, pour des questions de flux, mais vous pouvez aussi les laisser, c'est toujours plus convivial aussi. Je laisse William se présenter plus en longueur et puis nous dérouler ses travaux avant d'échanger avec vous. Et voilà, merci à tous et à toutes d'être là en tout cas.
Merci, merci Hélène, merci tout le monde également d'être là. Je suis vraiment merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce projet. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous ai préparé un petit PowerPoint pour parler finalement du projet. Donc, je vous ai perdu par exemple. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait.
Oui.
D'accord. Alors, allons-y. Moi, je suis chercheur et médiateur pour un organisme sans but lucratif qui s'appelle Execo. Donc, Execo, c'est une organisation de bienfaisance dont la mission est d'utiliser les arts, la philosophie, les sciences sociales comme des leviers d'inclusion, comme des leviers, ce qu'on appelle l'émancipation intellectuelle, donc l'exercice de l'esprit critique, l'autodéfense intellectuelle et ainsi de suite. On travaille beaucoup dans le champ de l'innovation sociale, donc on a une multitude de projets qui visent à répondre à différents besoins, à différents défis en termes éducatifs, culturels, qui touchent particulièrement donc des populations marginalisées. Et dans ce cadre-là, on utilise des pratiques de médiation culturelle, de médiation sociale, c'est des pratiques que vous connaissez, je crois, bien en France, et on a développé ce qu'on appelle des pratiques de médiation intellectuelle, donc je pense qu'ils pourront peut-être faire résonance avec des choses qui ont été discutées autour de la médiation scientifique dans le cadre de la boutique des sciences, mais la médiation intellectuelle, ça a cette volonté-là justement de créer des ponts, créer des opportunités. Peut-être si la personne pour qui il y a une moto qui passe pouvait fermer son micro, je vous en remercie. On a développé ces pratiques-là et il y a à peu près 5 ans, on s'est demandé comment est-ce que des pratiques de médiation intellectuelle comment est-ce qu'on peut s'en servir comme aussi des approches de recherche-action, de recherche participative. Et c'est dans ce cadre-là que je vous parle aujourd'hui d'un projet qu'on a développé de 2016 à 2020 qui s'appelle le laboratoire Culture inclusive. Donc, le plan de ma présentation, j'irai en trois temps. On m'a dit de faire environ une quarantaine de minutes. Donc, premièrement, vous parler plus des partenaires, des visées du projet, le cadre théorique qu'on a emprunté assez rapidement. Ensuite, rentrer dans, je pense, ce qui va vraiment le plus vous intéresser, donc les méthodologies qui ont été mises en place, les méthodologies participatives qui ont été déployées dans ce projet-là. Et terminer avec comment on a mobilisé le résultat de ces méthodologies-là dans un cadre à la fois d'amélioration des pratiques, mais aussi de cadrage politique. Donc, ça va être plus clair plus on va avancer. Mais donc, je m'y lance. Partenaire. Donc, le projet Laboratoire Culture inclusive, c'est un projet vraiment multipartenarial. Au cœur de ce projet-là, bien, il y a 10 institutions culturelles montréalaises, donc qui sont ici, le Musée des Beaux-Arts, les Grands Ballets canadiens, deux orchestres, l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre métropolitain, il y a la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Théâtre du Nouveau Monde, la Place des Arts, qui est une espèce de centre culturel en art de la scène, une des grandes institutions publiques du Québec à ce niveau-là, la Maison Théâtre en théâtre pour enfants, la Salle Bourgie plus la musique classique. Donc, c'est des institutions culturelles qui touchent à une diversité de genre. C'est des institutions culturelles qui touchent différents publics, qui n'ont pas les mêmes disciplines artistiques non plus, et donc qui représentent une grande diversité en termes d'organisation culturelle. Ces institutions-là étaient déjà fédérées dans un groupe qui s'appelait le Groupe des 11. On a travaillé avec 10 des institutions du Groupe des 11 et on a lancé un projet où est-ce qu'on a aussi inclus dans le projet 8 organisations sociales, culturelles, artistiques qui travaillent davantage, disons, dans les milieux communautaires, dans les milieux sociaux. Je vais vous les nommer rapidement, simplement parce que ça vaut la peine de voir un peu c'était qui était autour de la table. Donc là-dedans, il y a l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. Donc, vous voyez qu'ils travaillent en déficience intellectuelle. Le Parrainage civique de l'Est de l'île de Montréal, qui est une organisation davantage axée sur les enjeux de santé mentale. L'Itinéraire, qui est un journal de rue par et pour des personnes qui ont vécu ou qui vivent l'itinérance. Bout du Monde, c'est un collectif de jeunes adolescents noirs ou métis qui explorent des lieux culturels à travers l'art. Les Impatients, c'est un organisme qui tient des ateliers d'art autour de questions qui touchent à la santé mentale. Les Muses, c'est un centre des arts de la scène qui forme professionnellement des artistes qui vivent avec des limitations fonctionnelles, de la neuroatypie, donc déficience intellectuelle, autisme, pour vraiment les former à être des artistes professionnels en art de la scène. Une Auberge du cœur, donc une auberge pour des jeunes qui ont vécu l'itinérance ou la grande précarité. Et finalement, la Maison d'Assyrie, qui est un organisme qui a pour mission de promouvoir la culture syrienne au Québec. Donc, on a dans ce projet-là vraiment une diversité de partenaires assez distincts qui pour lesquels parfois on se demande qu'est-ce qu'ils ont effectivement en commun. Peut-être en vous présentant les visées du projet, ça va devenir plus clair. Donc, l'idée de mettre un projet comme ça en branle avec tout ce beau monde-là, c'était vraiment d'avoir un impact social comme organisme. Donc, on n'est pas une université, on a une organisation, encore une fois, sans but lucratif. Cet impact social-là, c'était de contribuer à une transformation inclusive, émancipatrice des milieux culturels. Et donc, de mettre l'épaule à la roue pour finalement qu'il y ait des changements de pratique, qu'il y ait des prises de conscience sur les enjeux vécus dans ces milieux-là. Et ça nous a amené à spécifier un objectif de recherche qui était vraiment d'identifier les meilleures pratiques en termes d'accessibilité et d'inclusion dans les 10 institutions avec lesquelles on travaillait. Vous voyez qu'un objectif comme ça, il y a une dimension qui est premièrement épistémique ou cognitive, qui est de connaître les milieux, connaître les pratiques qui ont cours dans ces milieux-là, donc un peu plus près de ce qui se fait habituellement en milieu disons académique, mais il y a aussi une dimension normative qui est jugée sur dans tout ce qui se fait, c'est quoi les meilleures pratiques, c'est quoi qui devrait continuer à se faire, peut-être aussi c'est quoi qui ne se fait pas et qui devrait se faire. Donc il y a ces deux dimensions-là qui nous ont amené à vraiment le penser en termes de recherche-action, le cadre général du projet. et qui nous ont amené à emprunter un cadre théorique inspiré, je vais passer rapidement, mais de l'épistémologie sociale féministe, l'épistémologie sociale critique, ce qu'on appelle le standpoint theory ou la théorie des points de vue, qui, pour résumer l'argument assez rapidement, dans une société différenciée, bien, on occupe des positions sociales différenciées et selon ces positions, on a des expériences d'objets sociaux qui sont différentes et qui nous amènent à élaborer des savoirs sociaux différents sur ces objets. Et donc, notre cadre théorique s'inscrivait vraiment dans l'idée d'une conception perspectiviste de l'objectivité sociale, donc de se dire que l'objectivité sociale, ce n'est pas quelque chose qu'un, un peu dans le modèle cartésien, qu'un ego développe par lui-même, on n'atteint pas la vérité seul finalement, mais c'est en croisant les points de vue sur des objets sociaux qu'on finit par avoir une compréhension plus exhaustive, plus dense de la réalité sociale ou de l'objet qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, l'objet qui nous intéressait, eh bien, c'était l'accessibilité et l'inclusion dans les milieux culturels et on a identifié trois points de vue ou trois positions qui étaient pertinentes à prendre en compte structurellement dans la méthodologie de notre projet. Première position, bien, c'est la perspective intérieure, celle des institutions culturelles qui sont partenaires avec lesquelles on a travaillé en recherche partenariale. Donc, première perspective pertinente. Deuxième perspective pertinente, celle qu'on pourrait dire externe, qui provient des organismes socio-communautaires dont je vous ai parlé, qui sont pas nécessairement, qui vivent en fait des freins et des enjeux en termes d'accessibilité et d'inclusion culturelle, même s'ils travaillent eux-mêmes sur des questions culturelles. Et on a travaillé avec ces organismes-là vraiment des approches de recherche participative, de recherche inclusive. Et troisième perspective pertinente, bien celle qui s'inscrit à la frontière, donc celle de la perspective de médiateur culturel, qui était représentée par l'équipe d'Execo, donc par notre équipe à nous. Et l'idée du projet, ça a été de se dire, bien, à travers le développement d'approches, de méthodes adaptées pour chacune de ces parties prenantes-là, pour chacune de ces positions-là par rapport à la question de l'accessibilité culturelle, si on développe des méthodes adaptées, on va pouvoir aller mobiliser les savoirs de chacun de ces acteurs-là pour avoir une meilleure compréhension globale des enjeux d'accessibilité et d'inclusion. Alors, ça, c'est pour le cadre théorique très rapidement, simplement placer quelques petites pièces. On pourra bien sûr en reparler, mais je vais rentrer dans, je pense, ce qui va vous intéresser un peu plus, les méthodologies pour chacun de ces acteurs-là. Alors, il y a principalement de 2016 à 2018, on a travaillé avec des méthodologies séparées. Donc, on a travaillé avec des méthodologies qui étaient différentes pour chacune de ces parties prenantes-là. Avec les institutions, on a fait une analyse qui était institutionnelle, donc je vais y revenir. Avec l'équipe d'Execo, on a fait une approche en théâtre invisible de l'ethnographie couverte. Et avec les organismes sociaux communautaires, on a fait des cycles d'ateliers qu'on pourrait associer à de l'ethnographie collaborative. Je vais m'arrêter sur chacun de ces volets-là. Donc, l'analyse institutionnelle, je ne vais pas passer trop de temps parce que c'est un petit peu le bout, pas plate, là, mais c'est un peu le bout traditionnel. Donc, on a fait une recherche partenariale avec les institutions. Elles nous ont fourni des documents publics, des documents également confidentiels, qu'on a pu analyser leurs programmes, analyser leurs documents stratégiques. On a fait une revue de presse, une revue de littérature sur chaque institution. On a fait aussi des entretiens avec chaque institution pour comprendre comment ces institutions-là percevaient les enjeux d'accessibilité, d'inclusion, d'ouverture dans leur mur. Et donc, on a aussi créé des communautés de pratique entre les membres pour qu'ils puissent échanger autour de leurs défis, autour des solutions qu'ils avaient mis en place. Mais ça, c'est des approches un peu traditionnelles, donc je passe. Le deuxième volet, c'est un volet de théâtre invisible. Alors, je vais présenter rapidement c'est quoi le théâtre invisible pour peut-être ceux et celles qui ne le connaissent pas. C'est une méthode, ça fait partie d'une série de pratiques théâtrales qui ont été développées dans les années 70 environ par Augusto Boal en Amérique du Sud, qui était un homme de théâtre et qui s'intéressait au théâtre social, finalement, dans des contextes de répression politique importants. Il a développé des pratiques comme le théâtre des opprimés, donc qui vise à jouer des scènes d'oppression rejouer des scènes d'oppression, tenter de voir c'est quoi dans les situations d'interaction qui posent problème et qui peut être dénoué. Il y a eu d'autres formes d'intervention théâtrale qui ont été développées également. Et le théâtre invisible, c'est une forme d'intervention théâtrale qui vise à jouer une scène de théâtre dans un lieu public où les gens présents ne savent pas qu'ils sont spectateurs. Donc, où est-ce que l'idée, c'est de jouer une scène qui va provoquer une réaction chez le public sans que ce public-là soit au courant qu'il s'agit de théâtre. Et l'idée, c'était, par exemple, d'amener dans un restaurant pour Augusto Ball des scènes de discrimination pour provoquer des discussions chez les personnes autour sur ces sujets-là. Donc, on a utilisé cette approche-là de théâtre invisible pour faire un volet de recherche-création au sein de l'équipe. Dans notre équipe, on a des comédiens et comédiennes expérimentés dans les approches de théâtre de rue, de théâtre public, de théâtre invisible. Et ces comédiens et comédiennes-là, qui étaient aussi médiateurs, ont développé des personnages qui faisaient des parcours types dans les institutions avec des personnes en observation qui les suivaient pour aller finalement appuyer, tester, éprouver des situations limites dans les institutions pour lesquelles ça aurait été trop dangereux de mettre des personnes qui vivaient vraiment finalement les enjeux d'exclusion présents. Donc, pour vous montrer un peu comment ils ont procédé, les comédiens, l'équipe a collecté une série de situations à travers les autres volets, à travers aussi de la récolte plus ouverte, qui ont passé au crible d'une grille d'analyse qui visait à voir c'était quoi les facteurs qui pouvaient provoquer de l'exclusion dans les institutions culturelles. Et en passant à travers cette grille d'analyse-là, bien, ils ont identifié trois types de facteurs clés: l'apparence, les besoins énoncés, les comportements, à travers lesquels ils ont construit les personnages et les scénarios. Et donc, l'idée, c'était que les personnages pouvaient être... vous voyez, il y avait trois personnages. Donc, il y avait un personnage qu'on appelait l'excentrique involontaire, donc qui pouvait évoquer soit des enjeux de santé mentale, soit de la neuroatypie. Il y avait un personnage qui était... qui était en situation apparente de précarité ou de pauvreté, évoquant peut-être l'itinérance, donc vous voyez ici. Là. Et il y avait finalement un troisième personnage qui était le personnage normé selon les normes bourdieusiennes finalement de la distinction sociale, donc qui avait un éthos très, très bourgeois, très, très hautain, qui peut être présent dans certains milieux culturels, on le sait. Et ces trois personnages-là pouvaient faire les mêmes parcours, avoir les mêmes besoins, les mêmes comportements, et eux et les observateurs documenter les réactions, et notamment les réactions différentes selon le personnage face à un même besoin, par exemple, d'être changé de place parce que la personne a le vertige, ou de parler au téléphone, ou ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu le type de dynamique qu'on pouvait aller tester. Donc ici, une photo, quand même, quelques photos d'une sortie au musée où est-ce que les personnages, finalement, arpentaient le musée, faisaient leur parcours. Après, il y avait un retour à chaud où est-ce que l'équipe se regroupait. Il y avait une mise en récit de ce qui venait de se passer, une analyse et la formulation de recommandations. Alors ça, c'était le volet théâtre invisible, donc qui je pense peut vous intéresser, mais c'est peut-être pas ça qui va être le plus attrayant. Alors je vais passer tout de suite au volet vraiment de recherche participative du projet, qui était en fait un programme de sortie culturelle, de médiation culturelle qu'on avait exéco depuis des années, qui s'appelait les cultures partagées, et qu'on a transformé en cycle d'ateliers de recherche action participative. Et c'était des cycles de trois ateliers, dont autour d'une sortie culturelle. Donc, il y avait un premier atelier de préparation, un atelier qui était la sortie culturelle en tant que telle, et troisième atelier qui était un retour plus d'analyse critique qu'on menait ensemble. Alors, je vais passer dans chacun des ateliers parce que je vais rentrer un peu plus dans le détail de la méthodologie participative pour ce cycle d'ateliers. Les personnes qui participaient étaient des co-chercheurs dans le projet. C'était vraiment ça leur titre. Les groupes autour de chacun de ces cycles-là étaient des groupes mixtes. Donc, dans les organisations sociales que je vous ai présentées, c'était deux organisations qui étaient jumelées au cours d'une sortie. Et la sortie était dans une des institutions culturelles. Donc, ça pouvait être, par exemple, le groupe, l'Association de Montréal en déficience intellectuelle avec les jeunes noirs métis de bout du monde qui étaient ensemble et qui allaient ensemble à l'Opéra de Montréal, par exemple. Donc, c'était l'idée, c'était aussi de créer ces contextes de mixité assez riches. Donc, le premier atelier, vraiment, pour l'idée, on disait souvent, c'était de se construire des lunettes. C'était d'avoir, de se construire une grille pour comprendre ce qui se passait dans les milieux culturels. Alors, ce qu'on faisait, bien, tout d'abord, il y avait une rencontre entre les groupes, souvent à travers des jeux ludiques, là, qui étaient près de l'institution dans laquelle on allait. Mais il y avait aussi souvent une rencontre avec les personnes des institutions culturelles elles-mêmes, que ce soit, par exemple, ici, on est avec le directeur, un des directeurs de l'Opéra de Montréal, ou ici avec un comédien du Théâtre du Nouveau Monde. Donc, l'idée, c'était aussi d'apprendre à connaître un peu les personnes qui œuvraient dans l'institution pour mieux apprendre à connaître l'institution elle-même. Dans cet atelier-là, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on se préparait au niveau esthétique à l'œuvre qu'on allait voir. Donc, ici, par exemple, on était sur dans le décor du spectacle qu'on allait voir ou dans les costumiers d'une des institutions. Donc, l'idée, c'était aussi de se préparer. Ça pouvait être à travers des jeux aussi plus incarnés qui allaient chercher, par exemple, à travers le mouvement, qu'est-ce que c'est que la danse, qu'est-ce que ça implique. Donc, l'idée, c'était vraiment aussi de réfléchir à ces médiums-là, à ce qu'ils signifient, à ce qu'ils portent. On finissait ces ateliers-là. La dernière partie de l'atelier était autour de la co-construction d'une grille d'observation. On l'a fait de différentes manières, habituellement, l'idée, c'était vraiment de se demander, on est ici, on présentait le projet, on est ici, on essaie de comprendre c'est quoi l'accessibilité, l'inclusion, qu'est-ce qui fait qu'une institution culturelle est ouverte. Et on avait des réflexions libres autour de ce sujet-là. Vous voyez ici, on fonctionnait par catégorie en termes d'artistes, de stratégie de diffusion, les employés, ainsi de suite. Il y a d'autres moments où est-ce qu'on était plus dans des modèles libres, où est-ce qu'on faisait genre une discussion sans catégorie préétablie sur laquelle on notait finalement toutes les idées qui nous traversaient la tête. À la fin de l'atelier, on faisait souvent un petit check-out, on finissait l'atelier. On se disait, bon, on se revoit dans quelques jours. Et on avait cette grille-là en main. Donc, le premier atelier, ça se finissait un peu comme ça, sur la co-construction d'une grille. On se retrouvait quelques jours plus tard dans les milieux culturels. L'idée maintenant, c'était de mettre nos lunettes et de voir qu'est-ce qui se passait. On commençait bien sûr par profiter de la sortie culturelle. Donc, on allait voir des œuvres qui étaient d'une grande excellence. Donc, on prenait bien entendu le temps d'apprécier cette opportunité-là, les créations qui étaient proposées. Mais on avait toujours aussi, en tête la dimension de faire l'observation exploratoire, d'aller voir ce qui se passait, de comprendre les dynamiques dans les milieux. Et à ce niveau-là, on proposait différents outils qui pouvaient aller de la prise de notes, l'appareil photo, il pouvait y avoir du dessin, il pouvait y avoir vraiment différents types. Il y avait de l'accompagnement, on pouvait suivre des groupes de participants, aller explorer des lieux à droite, à gauche, ainsi de suite. Ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on traduisait la grille qu'on avait produite sous la forme d'une grille plus intuitive, là, donc qui était peut-être plus facile à s'approprier que le grand carton que vous voyez déplié sur la table. Donc, ces grilles-là étaient pertinentes pour vraiment aller observer ce qui se passait, analyser un peu les dynamiques. Donc, il y avait cette observation-là aussi exploratoire qui se passait pendant les sorties culturelles avec des médiateurs qui étaient là pour la stimuler, la soutenir, ainsi de suite. On finissait souvent après avoir vu le spectacle, par exemple, par une rencontre avec les artistes de l'œuvre qui permettait d'échanger, de finalement confronter notre compréhension de l'œuvre à celle de ses artisans et artisanes. Et on se disait, on finissait ça souvent légèrement en disant, bon, on se revoit dans quelques jours pour le dernier atelier du cycle. Et le dernier atelier du cycle, bien, ça se passait souvent dans les bureaux d'Execo, où est-ce que ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait par faire un retour sur l'œuvre qu'on avait vue, se remémorer un peu ce qui se passait, mettre notre chapeau de critique artistique finalement et se dire, bien, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était peut-être un peu moins bien dans l'œuvre elle-même, avant de finalement reprendre la grille d'analyse qu'on avait faite et d'en faire une analyse critique. Donc, les hypothèses qu'on avait formulées au premier atelier sur qui serait le public, comment les employés agiraient, comment serait aménagé l'espace, comment on pourrait s'y déplacer, qui serait sur la scène. Bon, vous voyez un peu l'étendue des enjeux qu'on pouvait discuter. Mais on faisait un retour critique pour voir est-ce que nos hypothèses ont été corroborées ou est-ce qu'elles ont été infirmées. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des expériences qui vont dans un sens? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des expériences qui vont dans l'autre? Ainsi de suite. Et à travers cette analyse critique de notre grille, bien, on formulait une série de recommandations spécifiquement à l'institution ou pour les milieux culturels en général qui permettaient finalement aussi de faire un retour à ces institutions-là immédiat et de documenter aussi les bonnes pratiques du point de vue des co-chercheurs qui participaient à ce volet-là. Alors, bien entendu, ces trois ateliers-là, je vous ai présenté le parcours type en fonction des personnes qui participaient, en fonction des œuvres qu'on allait voir, des institutions qu'on visitait. Tout était tout le temps un peu mouvant. On adaptait, on s'assurait que ça répondait vraiment aux besoins et aux intérêts des personnes présentes et qu'on offrait des outils de recherche participative qui étaient adaptés. Et on a vécu différents freins à ce niveau-là. Par exemple, des personnes qui pouvaient être autistes. Parfois, au début, il y avait beaucoup d'approches de recherche qui était centré sur l'observation des visages. Donc, parce qu'il y avait d'autres groupes qui parlaient beaucoup des logiques de mépris dans les milieux culturels, mais pour les personnes autistes, c'était plus difficile cette approche-là. Alors, on a utilisé d'autres stratégies, par exemple, d'utiliser davantage la documentation photo pour ces personnes-là ou d'autres stratégies de ce type-là. Alors, juste pour vous dire que ce parcours-là type était type, mais c'était un idéal type, mais ce n'était pas exactement ça qui se passait tout le temps. Alors, ces trois volets-là ont été vraiment utiles pour comprendre, disons, la perspective spécifique de chacune des parties prenantes, dont la nôtre propre, et de vraiment pouvoir, dans les deux premières années, mieux comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour chacun, l'accessibilité, l'inclusion, l'ouverture, l'équité. Et ça nous a permis d'arriver, dans les deux dernières années, à mettre en place une autre étape du projet qui, elle aussi, axée beaucoup autour d'approches participatives. Et je pense que je vais y aller et plonger là-dedans tout de suite. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'avec ces trois volets-là en 2016-2018, ce que ça nous a donné, une fois qu'on les avait, ça nous a donné une bonne cartographie des enjeux avec à la fois des recommandations qui pourraient être mises en place et des pratiques qui sont déjà à l'œuvre dans les milieux. Cette cartographie-là, bien, tout d'abord, on en a fait une synthèse, on pourrait dire, analytique pour chaque institution culturelle, ce qui a donné place à la publication d'un ouvrage qui est un portrait de chacune des institutions selon justement les deux premières années de recherche, donc qui formulait des recommandations à chacune de ces institutions-là. Et ce rapport de recherche, ces rapports-là, finalement, qui a été remis d'abord aux institutions, ensuite a été transposé sous la forme d'un livre, qui est accessible en libre accès d'ailleurs. Vous pouvez le télécharger en ligne gratuitement. Mais donc ça, c'était comme une synthèse plus analytique. C'est intéressant, ça peut être utile pour des étudiants, des chercheurs, des professionnels, mais c'était pas ça notre but ultime. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi, on s'est aussi embarqué dans ce qu'on appelle la co-rédaction d'une charte d'accessibilité culturelle. Et pour faire ça, on a tenu une série d'ateliers qu'on appelait des ateliers de co-rédaction, où l'idée, c'était autour de certains thèmes qui pouvaient être l'accessibilité géographique, l'accessibilité économique, les stratégies éducatives, la représentation des groupes minoritaires dans la programmation, ainsi de suite. On a tenu une série d'ateliers où on a invité les personnes qui avaient participé aux deux premières années. On a invité aussi une série de chercheurs, d'activistes, par exemple, pour les droits humains, de personnes dans des positions de gouvernance culturelle, dans les conseils des arts, ainsi de suite, pour se pencher collaborativement sur ces thématiques-là qu'on a vues dans les deux premières années qui pouvaient poser problème. Et là, je pourrais m'arrêter longuement sur la méthodologie même de ces ateliers-là, qui a été elle-même évolutive. Je vous présente ici, on facilitait graphiquement les recommandations et les pratiques qui avaient été identifiées dans le but, finalement, de rendre ça aussi plus accessible, la participation à ces ateliers-là. On partait dans les ateliers tout le temps d'une expérience, d'un partage d'expérience en petits groupes, en lien avec la thématique pour créer du lien entre des gens qui pouvaient avoir peu de choses en commun, hein, entre un gestionnaire, un cadre d'une institution culturelle, puis une personne qui vit l'itinérance. parfois, il y a un monde à combler. Donc, on partait par de la mise en récit, puis un partage pour essayer de faire le pont, faire la médiation sociale. Mais donc, on a tenu une série d'ateliers de cette nature-là qui nous ont donné vraiment, on pourrait dire, un contenu de base, un squelette pour la charte d'accessibilité qui était en train d'être corrigée dans ces ateliers-là. Et en novembre 2019, on a tenu ce qu'on appelait un forum de co-rédaction, dont l'objectif était d'éprouver, de réviser, de valider finalement le contenu de la charte qui avait été rédigée dans les ateliers de co-rédaction. Donc, ce forum-là s'est tenu à la Maison du Conseil des Arts de Montréal. Il y avait au-dessus d'une centaine de personnes, entre 100 et 200 personnes qui étaient présentes. C'était un cadre dans lequel il y avait une représentation assez large de groupes sociaux concernés par les questions d'accessibilité, d'inclusion, d'équité, qui a duré toute une journée. Donc, comment on fonctionnait, en gros, on pourrait parler ici aussi de la méthodologie, mais on a fonctionné beaucoup autour de tables thématiques avec des canevas, le petit canevas ici, par exemple, qui permettait, chaque table finalement s'occupait d'un chapitre de la charte sur une thématique précise, l'accueil. Ça pouvait être des questions, encore une fois, là, par exemple, de stratégie éducative auprès des groupes scolaires, de la médiation et des groupes communautaires, de la représentation des artistes dans les institutions culturelles, des artistes minorisés. Et il y avait des méthodologies participatives, collaboratives pour s'entendre sur, finalement, la formulation des articles de la charte. À la fin de la journée, donc vous voyez ces canevas-là, on a fait un petit coup théâtral. Il y avait un dispositif qui s'est déployé dans l'espace où est-ce que les canevas que les gens avaient travaillé au cours de la journée bien, étaient apposés sur ce dispositif-là pour former finalement matériellement cette charte-là et avoir un sentiment d'accomplissement aussi en fin de journée. On a transposé les résultats donc identifié ici sous une forme un peu plus, sous une forme officielle de charte. Elle est maintenant accessible. On l'a lancée, il y a un retard avec la pandémie, mais on l'a lancée à l'automne passé. Vous pouvez aller sur le site web ici pour voir le détail de la charte. Et donc, cette charte-là, elle est vraiment axée sur ces trois thématiques-là de l'accessibilité, de la possibilité d'aller dans un lieu culturel sans frein, sans qu'il y ait de barrières systémiques, de l'inclusion, c'est-à-dire des stratégies qu'on appelle souvent, pardonnez-moi l'anglais, mais d'outreach, d'aller rejoindre des groupes éloignés par des projets sur mesure, et un axe autour de l'équité, donc ici qui représente plus qui est dans l'institution, qui sont les artistes présentés par l'institution, comment faire de la place aux artistes noirs, autochtones, LGBTQ+, handicapés, sourdes, et ainsi de suite. Donc, comment on s'assure de créer de l'espace, de la place, de la représentation dans les institutions. Et ces trois axes-là, donc, qui ont été travaillés aussi pendant le forum. Donc, je pense que j'arrive à la fin. J'ai été assez rapidement, vous me pardonnerez, je voulais vous présenter un peu tout le processus en parlant quand même aussi on pourrait dire, le détail de la méthodologie participative. Mais, donc, tout ça pour vous dire que on a lancé cette charte-là, on est en train de travailler un peu sur la stratégie de diffusion, la stratégie de mobilisation autour, mais je pense que ce qui est le plus pertinent dans ce projet-là, ça reste le processus, c'est-à-dire le travail de mise en réseau, d'intercompréhension, de développement de l'esprit critique, d'approfondissement des enjeux qui s'est passé tout au long du processus. Même au-delà des résultats finaux, même si ces résultats-là sont quand même significatifs et ont un impact. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention.
Ben, merci à vous pour cette présentation très claire et très illustrée, et, voilà, tout à fait passionnante. On a déjà quelques questions dans le chat, mais je vais commencer par une question que je me suis posée au départ, voilà, pour comprendre un petit peu comment aussi s'est monté le projet. Qui a été à l'initiative et notamment comment ont été approchés en fait les différents partenaires, parce que voilà, 11 plus 8 partenaires, c'est beaucoup de monde, et du coup voilà, comment ils ont été sélectionnés, par qui, Pourquoi, voilà, comment aussi a été financé tout ce processus qui est long, qui nécessite des compétences et du temps. Et du coup, voilà, comment notamment les institutions culturelles et les associations ont été approchées pour rentrer dans ce vaste travail voilà, de longue haleine quand même.
Oui, bien sûr, très bonne question. C'est à l'initiative de qui? C'est à l'initiative, premièrement, d'Execo. Donc, c'est un projet qui a été. Nous, ça fait des années qu'on intervient. Ça faisait déjà des années qu'on intervenait dans le milieu culturel. On avait constaté des lacunes importantes en termes d'accessibilité, d'inclusion. On avait déjà des programmes qui agissaient à ce niveau-là. Et la directrice générale à l'époque a eu par hasard une rencontre avec le groupe d'institutions qui était le groupe des 11 donc que je vous ai présenté. Et elle a saisi un peu l'opportunité pour leur proposer un projet structurant dans lequel on a invité ensuite une série de partenaires avec lesquels soit on collaborait déjà dans les organismes socio-culturels dont je vous ai parlé, soit avec lesquels on cherchait des opportunités de collaboration. Mais donc c'est vraiment, ça a été à l'initiative d'Execo aussi dans cette réflexion-là de déployer des projets plus axés sur la recherche-action. Le financement, c'est une autre bonne question. On a eu du financement à la fois public et privé. On a eu des soutiens stratégiques de la Commission canadienne de l'UNESCO. On a eu du, je, on a eu de la, il y a une partie des fonds qui est venue des institutions elles-mêmes qui ont mutualisé des ressources financières donc ils mettaient chacun quelques milliers de dollars par année de manière mutuelle, mais c'était une partie, c'était pas la moitié du budget, c'était une petite partie du budget du projet. On a été chercher chez des fondations philanthropiques, par exemple la fondation Saputo, on a été chercher chez les conseils des arts, par exemple le Conseil des arts de Montréal et d'autres partenaires les fonds manquants, mais ça a été un enjeu, c'est-à-dire que puisque ma collègue Nadia a proposé le projet un peu en répondant à une opportunité, on n'avait pas déjà monté une stratégie de financement et donc il a fallu tout au long du projet aller rattraper parfois des manques en termes de financement. Alors voilà peut-être réponse courte.
Ok, super. Je vais me faire le relais de la question de Marie qui demande si les lieux, les institutions culturelles étaient demandeuses ou simplement d'accord pour y prendre part. Et du coup, comment elles ont réagi aussi aux différents ateliers? Moi, je me demandais, c'est vrai, notamment pour le théâtre invisible, est-ce qu'elles étaient au courant, en fait, qu'il y avait cette phase-là qui était en train de se dérouler chez elles? Et peut-être pour développer aussi cette question-là, est-ce que vous avez pu faire une sorte de typologie aussi de façon différente de travailler avec les différentes institutions culturelles. Je ne sais pas, on pourrait imaginer par exemple qu'avec les plus grosses, c'est plus difficile ou au contraire plus facile. Voilà, est-ce que vous, dans la diversité du coup des 11 institutions avec lesquelles ce projet a eu lieu, voilà, comment ça s'est passé?
Oui, eh bien, apparemment, les institutions étaient assez emballées, là, ils ont embarqué parce que, pour plein de raisons, tu sais, je pense qu'ils relèvent des raisons à la fois stratégiques pour des institutions qui voient aussi leurs propres limites, leurs propres angles morts, qui sont confrontés dans l'espace public, qu'ils l'étaient déjà, ils sont encore plus aujourd'hui, mais à des critiques en termes d'accessibilité, d'inclusion, d'équité, mais qui ont aussi, mais dans lesquelles il y a aussi souvent des gens qui portent personnellement, individuellement, ces préoccupations-là, pour des raisons qui peuvent être personnelles, qui peuvent être liées à leur parcours, qui peuvent être liées aussi à leur éducation, ainsi de suite. Et donc, les institutions étaient vraiment partantes. On n'aurait pas pu faire un projet comme ça sans avoir l'assentiment complet des institutions culturelles. Pour le théâtre invisible, c'est une bonne question parce que, hein, le théâtre invisible, par définition, les personnes dont les employés dans l'institution ne devraient pas être au courant. La manière dont on a fonctionné, c'est que nous, on avait à la base l'assentiment, comme je disais, des directions générales de chaque institution. On avait une personne relais, personne ressource par institution qui était notre interlocuteur privilégié. Et, Et donc, il y avait une personne qui était au courant qu'on allait faire le théâtre invisible la journée où est-ce qu'on y allait. Elle était là, stand-by, pas dans la mêlée, disons, pas au sein du public, pas où est-ce que nous on était, mais elle était là, elle était disponible si jamais quelque chose se passait. Si jamais, par exemple, il y avait eu, parce qu'on avait testé quand même des éléments qui pouvaient être limites, qui pouvaient vraiment créer des situations conflictuelles. Et par exemple, si c'était sur le point de dégénérer, on avait le contact de la personne pour éviter que ça dégénère, pour éviter, par exemple, que la police soit appelée ou quelque chose comme ça. Finalement, il n'y a pas eu de besoin parce que les acteurs ont su finalement aussi parfois se tirer un peu d'affaire. Mais voilà, donc il y avait une personne qui était au courant, mais le reste de l'organisation ne l'était pas.
Ok. Oui, intéressant. Je vais poser la deuxième question de Marie aussi, qui doit nous quitter, mais on lui enverra les éléments, il n'y a pas de souci. Qui demande, est-ce qu'il y a eu des suites pour évaluer la démarche aussi de progression du coup de ces lieux sur ces questions, et puis peut-être pour maintenir aussi une dynamique à la fois avec les institutions culturelles et à la fois avec les organisations socio-communautaires. Et puis ça rejoint un petit peu la question de Cécile sur peut-être est-ce qu'il y a des exemples du coup de pratiques ou d'actions qui ont changé dans ces institutions culturelles suite à ce travail.
Oui, OK. Ouais, ben pour évaluer l'évaluation, comment on a fonctionné, on a travaillé avec une organisation qui s'appelle InnoWeave, qui est spécialisée en évaluation évolutive. Donc, ce n'est pas une évaluation d'impact. Je vous dirais, on pourrait parler d'évaluation d'impact. Je sais que c'est un sujet qui vous a occupé dans un de ces webinaires-là. Mais à Iseco, nos expériences d'évaluation d'impact, on pourrait dire un peu trop corporative, là, menée par exemple des grandes boîtes d'évaluation d'impact, a été au cours des années un peu décevante, c'est-à-dire que ça permettait de rendre des comptes aux bailleurs de fonds, ça permettait de parler le langage de même certains bailleurs de fonds, pas tous et toutes, mais ça nous aidait plus ou moins pour faire évoluer nos pratiques, pour que nos pratiques finalement répondent mieux aux besoins des personnes sur le terrain. Et dans ce cas-là, on n'a pas fait une évaluation, je pourrais dire, que ce soit, disons, plus sur ce modèle-là, ou est-ce que on a procédé par une évaluation qu'on appelle évolutive, c'est-à-dire qu'on avait une évaluatrice externe qui était avec nous, qui nous accompagnait tout au long du projet et qui nous accompagnait dans le développement d'outils d'évaluation en continu, d'outils pour évaluer, pas juste au début, à la fin, mais tout au long du processus, d'avoir des moments récurrents où est-ce qu'on pouvait se questionner sur, bon, est-ce que les formats des ateliers étaient les bons? Est-ce que les relations avec les partenaires se passent bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les changer? Et donc, c'est vraiment plus dans une approche, on pourrait dire, c'est ça, qui visait à, qui était réflexive, qui était ancrée dans la pratique. À côté de ça, on avait aussi une personne qui était stagiaire doctorale pendant une bonne partie du projet qui fait une évaluation plus spécifique sur la participation d'éco-chercheurs. Donc, vraiment autour de c'est quoi les effets qu'ont eu la participation. Dans les institutions, bien, on a vu différentes transformations, que ce soit des changements dans... par exemple, l'aménagement de certains lieux culturels, que ce soit de la formation qui a été ajoutée à certains endroits, que ce soit des changements dans la programmation. Mais là aussi, je mettrais un gros bémol, un gros astérix, c'est qu'on ne peut pas s'attribuer ces impacts-là ou ces transformations-là. Et c'est pour ça que dès le début, nous, on a pensé l'impact social du projet comme étant de contribuer à des transformations et non pas d'effectuer des transformations. Et donc, qu'est-ce qui relève, par exemple, du projet dans lequel il y a eu des discussions qui ont permis une intercompréhension entre les différentes parties prenantes, qu'il y a eu des outils qui ont été offerts pendant plusieurs années aux institutions, des feedbacks d'expérience, ainsi de suite. Qu'est-ce qui relève dans les transformations de ça et qu'est-ce qui relève, par exemple, de la pression publique? Les institutions dans les dernières années ont été vraiment, en tout cas au Québec, vraiment critiquées sous l'angle, par exemple, du racisme systémique, des questions d'équité. Donc, nous, on est mieux pensé que notre projet a pu aider, appuyer les institutions dans leur réponse à ces critiques-là. mais on serait vraiment pas prêt à s'attribuer ce type d'impact-là. Donc peut-être que ça serait ma réponse courte. Je ne sais pas si elle est trop évasive, mais voilà.
Non, non, ça me paraît intéressant. Peut-être donner deux, trois exemples, même si vous ne voulez pas vous attribuer les changements qu'ont pu avoir lieu, mais en termes d'aménagement, par exemple, voilà, c'est vrai qu'on a du mal à peut-être percevoir qu'est-ce qui précisément. Enfin, on a vu tout à l'heure un peu dans les images, voilà, par exemple, signaler quand il y a un coup de feu dans un spectacle ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous auriez peut-être deux, trois autres exemples concret, voilà, de situations ou de choses qui ont permis une adaptation.
Oui. Ben, je pense que tu sais, dès les premiers mois du projet, par exemple, dans un peu la foulée de la mise en place, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, on crée un poste en médiation sociale pour vraiment la clientèle, les usagers, usagères, pardon, en situation d'itinérance. Ils ont embauché quelqu'un qui travaillait ex aequo à ce moment-là. Donc, juste, on pourrait dire, le momentum qui avait été créé, après ça, c'est pas de notre faute. T'sais, si eux, ils ont créé un poste, mais il y a eu la création d'un momentum. Et un autre exemple, au Théâtre du Nouveau Monde, il y a eu un réaménagement de leur accueil, notamment autour du constat que pour les personnes plus âgées, les personnes à mobilité réduite, il n'y avait pas d'endroit où ils pouvaient s'asseoir, tout simplement, sans être dans une logique de consommation, sans être au bar en train de boire un verre ou quelque chose comme ça. Donc, il y a aussi eu, on a vu aussi, par exemple, effectivement, les signalétiques dans l'espace qui ont été prises plus au sérieux dans différents endroits, donc dans des salles de spectacle, des signalétiques autant en termes de direction se retrouver qu'en termes de contenu. Par exemple, d'arriver dans une salle, dans un soir de spectacle, et de voir qu'il y a des affiches qui avertissent qu'il y a des coups de feu. Donc ça, c'était un changement par rapport au début du projet. Et donc, c'est des transformations qui se font pas à pas, qui se font à droite, à gauche, pas de manière nécessairement concertée entre les autres institutions, mais qui se déroulent quand même. Et nous, le rôle qu'on pouvait jouer là-dedans, c'était plus de soutenir puis d'offrir des leviers, finalement, pour répondre aux situations qui étaient rencontrées.
On a une question sur la présence dans le réseau de liens avec des laboratoires de recherche universitaires. Voilà, quel lien? Et puis j'accentuerai sur cette question-là aussi, voilà, quel lien et quelle réception aussi par le milieu universitaire ou de la recherche institutionnelle, on va dire. Voilà, de ce type à la fois de méthode, d'approche, de vos résultats, etc.
Oui. Oui, ben nous, on a été chercher du conseil, disons, dans le déploiement du projet au début de chercheurs universitaires, mais il n'y avait pas de laboratoire affilié. C'était un choix aussi parce qu'on voulait voir, tu sais, nous, on travaille beaucoup, comme je disais, ce qu'on appelle l'émancipation intellectuelle. On voulait voir comment est-ce qu'en dehors des milieux de recherche, il pouvait y avoir une prise de pouvoir de la recherche par des acteurs de la société civile. Dans ce cas-là, c'était nous, c'était les organisations partenaires. Donc, il n'y avait pas de laboratoire associé. Mais comme je vous ai dit, il y avait tout au long de la démarche, surtout dans la phase de co-rédaction, on a ouvert le processus à une série de chercheurs qui pouvaient être dans différents regroupements. Moi, en 2019, alors qu'on était dans ce processus-là, j'étais co-directeur de l'Observatoire des médiations culturelles, qui est un réseau interuniversitaire, interprofessionnel de recherche sur l'intervention culturelle. Et c'est un réseau qu'on a aussi mobilisé dans le cadre de la co-rédaction. On a cherché des experts, des expertes sur certaines thématiques précises. Et donc, on a mobilisé le réseau de la recherche, mais il n'y avait pas de partenaire qui était spécifiquement dans le réseau de la recherche.
Et c'était plus un choix de votre part qu'une réticence côté universitaire.
Oui, c'était vraiment davantage un choix de notre part au début. Pour plein de raisons, je vous dirais une raison structurelle, c'est vous devez, peut-être vous l'avez vu dans d'autres projets, parfois Parfois, quand c'est des alliances, société civile, milieu de la recherche, peut y avoir des dynamiques de hiérarchisation, des connaissances, des intelligences qui se mettent en place dans l'informel, dans une dynamique même culturelle. Nous, à Exequo, un de nos principes de base, on s'inspire de Jacques Rancière, notre posture éthique de base, c'est la présomption d'égalité des intelligences. Donc, c'est une posture, c'est l'idée de se dire que face à une société qui tend à justifier des systèmes d'oppression sous une prétendue inégalité des intelligences, le fait que finalement les dominants seraient plus intelligents que les dominés parce qu'ils sont dominants. Et là, on peut associer ça, les hommes plus intelligents que les femmes, les personnes blanches plus intelligentes que les personnes noires, ainsi de suite. Vous voyez la dynamique sociale. Donc, nous, au cœur de notre mission, c'est de combattre ce présupposé-là. Et dans un projet qui était déjà assez complexe, d'ajouter des acteurs vraiment associés au milieu académique pour lesquels il aurait fallu faire ce travail-là de voir comment on adresse ces dynamiques-là, ça rajoutait du risque. Il y avait déjà beaucoup de risques, ça rajoutait du risque et on a préféré avoir plus des chercheurs universitaires en appui au projet que vraiment de les mettre dans la gouvernance ou au cœur du projet. Voilà.
Et du coup, comment s'est passée la présence de ces personnes-là? Est-ce que finalement il y a eu des moments justement où ça a posé problème, ou voilà, il y a eu ces frottements-là justement de rapport au savoir et à la construction des savoirs qui ont pu du coup révéler que leur présence n'était pas forcément pertinente, ou au contraire, eux, ça a pu aussi les faire évoluer dans leur dans leurs pratiques et leurs postures et leurs approches.
Oui, ben je vous dirais qu'on a quand même, il n'y a pas eu vraiment de problème avec les chercheurs finalement qui sont venus parce que comme dans tous les milieux là, il y en a qui sont, on a invité les gens qu'on savait qui allaient être généreux à l'écoute, qui étaient sensibles aux questions. Les moments où ces dynamiques-là ont plus été présentes, c'est ça qu'on voulait travailler justement. C'était entre les institutions culturelles. C'était de la part d'institutions culturelles qui ne voulaient pas mal faire, mais qui viennent avec une légitimité qui est consacrée souvent et qui parfois pouvaient se faire remettre en question et réagir un peu sur la défensive. Mais c'était vraiment là que nous, la médiation, on voulait qu'elle se passe. On voulait qu'elle se passe davantage à ce niveau-là qu'entre, par exemple, chercheurs professionnels, co-chercheurs. Le fait que, par exemple, les chercheurs professionnels universitaires sont arrivés à la troisième année du projet, ben les co-chercheurs avaient déjà finalement 2 ans d'analyse qui les mettaient en confiance, puis 2 ans de travail avec l'équipe d'Execo qui les mettaient en confiance et qui faisaient que même si, par exemple, une personne qui arrive avec une prestance institutionnelle avec parfois peut-être des effets d'imposition, ben il y avait eu assez de travail en amont pour qu'il y ait une certaine confiance dans leurs propres analyses, dans leur propre point de vue et pouvoir justement en discuter. Donc, c'était ça aussi un peu le pari de se dire, on ne va pas mettre tout le monde ensemble à partir de la première année ou de la deuxième année, on va le faire à la troisième année pour laisser vraiment le temps de passer d'une perspective plus intuitive à un point de vue réfléchi, passer au crible critique collectivement, avant de créer des espaces de mixité entre co-chercheurs, institutions culturelles, chercheurs universitaires, ainsi de suite.
Tout à fait. Passionnant. Ça rejoint ouais, en effet des pratiques notamment d'AT d'écart-monde avec ces pratiques de croisement des savoirs, avec vraiment cette notion de non-mixité qui est particulièrement d'actualité ces jours-ci en France. Voilà, il y a beaucoup de débats sur cette notion en ce moment. Donc c'est intéressant de voir aussi que dans ce cadre-là, elle est aussi très pertinente. Je pose la question de Noémie et puis n'hésitez pas dans le chat aussi à demander la parole voilà, si vous voulez poser votre question directement. Voilà, c'est possible aussi. Donc Noémie demande comment s'est déroulée la rédaction de la charte d'accessibilité et les institutions culturelles étant parfois réticentes à certaines contraintes en termes de programmation artistique, est-ce qu'il y a eu des blocages?
Oui, c'est une bonne question. La rédaction de la charte, je vous dirais, tu sais, le processus, ça s'est bien passé, ça s'est fait dans la bonne humeur. Il y a eu quelques accrochages sur des sujets, notamment, bon, je pense que c'est bien ciblé la programmation artistique. Donc, je me rappelle de discussions entre la direction artistique d'une institution et des militants antiracistes. Il y a eu des clashs aussi, et c'est normal qu'il y ait ces clashs-là, qu'il y ait ces tensions-là. Nous, nos équipes de médiation sont là pour faciliter la compréhension, la discussion, mais pas pour imposer un consensus. Et donc, il y a eu des discussions qui étaient moins évidentes, mais ça s'est fait quand même dans la bonne humeur. L'idée d'avoir des méthodologies un peu cadrantes, tu sais, où est-ce qu'on a des étapes, où est-ce qu'on est flexible, mais on a quand même un déroulement, des étapes, où est-ce qu'on mène un peu le jeu. Ben, ça l'a permis finalement que quand il y avait des nœuds un peu trop forts, ben, on pouvait peut-être les contourner en les laissant se déposer, puis en se disant, ben, OK, ça, il faudra encore en discuter pendant peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fait peut-être que c'est pas le truc sur lequel on va s'entendre aujourd'hui. Bon, si vous comprenez un peu, là, donc, ça s'est bien passé. Il y a eu des blocages, il y en a encore. Mais je dirais que ces blocages-là peuvent venir du processus, peuvent venir aussi de l'espace public dans lequel les discussions sont assez chargées par moment. Et donc, nous, on favorisait l'intercompréhension plutôt que la fusion d'horizons, on pourrait dire comme ça. On favorisait le fait que les gens, même s'ils n'étaient pas d'accord, ils se comprenaient plutôt que d'arriver à OK, ben ça, c'est le truc sur lequel. C'est le truc sur lequel il faut que tous qu'on s'entende absolument. Parfois, ça l'impliquait effectivement là, dans le cadre d'une rédaction de faire des compromis sur les termes qu'on utilisait, ainsi de suite. C'est des compromis qui peuvent être mis en question d'un point de vue politique face à un document cadre comme une charte. Mais dans un processus de co-rédaction, on n'avait pas le choix de procéder comme ça.
Ok. Est-ce que du coup pendant qu'on est sur cette thématique-là aussi de la médiation, quelle formation en fait ont les différents médiateurs dont vous parlez? Enfin, on voit à petit peu près les rôles qu'ils ont et que vous, enfin voilà, que vous vous donnez. Comment ce rôle-là est pensé, présenté aussi? À l'extérieur, voilà, à quel moment du projet, parce que bon, on a l'impression que vraiment le rôle de médiation est évidemment présent tout au long du projet, autant en amont, pendant, en aval également. Comment tout ça est planifié et quelles compétences spécifiques ont ces personnes-là?
Oui, c'est une bonne question. Euh, des, des, des compétences spécifiques, je vous dirais qu'il y a des questions de posture puis de compétences relationnelles là, que tous les médiateurs ont. Là. Donc, la posture, comme je vous disais, que nous, on associe à une présomption d'égalité des intelligences, donc pour laquelle tout le monde s'entend à l'interne sur l'importance de mettre ça au cœur de nos approches. Des compétences relationnelles, c'est-à-dire compétences génériques de mise en relation, centration, décentration, être capable de se décentrer de soi-même pour voir un peu c'est quoi la dynamique, ainsi de suite. Au-delà de ça, c'est moins des compétences spécifiques à l'équipe de médiation que des compétences propres à chaque personne qui y participe, parce qu'on a une équipe interdisciplinaire. Donc, moi, j'ai un parcours en philosophie, en sociologie. Les personnes qui étaient médiateurs, qui étaient aussi sur le théâtre invisible, ben, c'était des comédiens, des artistes multidisciplinaires en art visuel. On a sur le projet, on avait sur le projet aussi des historiens de l'art, des personnes en muséologie. Donc, il y avait vraiment un contexte interdisciplinaire, pas simplement en sciences sociales, mais aussi dans les disciplines artistiques, un chanteur d'opéra, bon, vous voyez un peu tout l'étendue. Et souvent, les équipes étaient mixtes, en fait. On essayait, en tout cas, dans la mesure du possible, d'avoir quelqu'un avec un background plus en sciences sociales, quelqu'un avec un background plus en art. Et là, on construisait des ateliers sur mesure à chaque fois en fonction du groupe, en fonction des œuvres qu'on allait voir et en croisant les expertises propres de chaque médiateur, médiatrice. Donc, c'est assez large. je vous dirais, mais c'était ça une des forces, c'était d'avoir vraiment une équipe avec des compétences distinctes qui venaient, ces compétences-là venaient stimuler une créativité dans les propositions participatives, que si j'avais juste été avec les gens avec qui j'ai étudié en sociologie ou en philosophie, ça aurait été moins intéressant, en tout cas, à mon avis.
Super, merci. Je vais poser la question de Corinne et puis on donnera la parole à Noémie Rapto aussi qui demande la parole. Donc Corinne demande, j'ai travaillé avec des laboratoires de recherche francophones de 2007 à 2015. Quelles sont les universités canadiennes qui perdurent?
Oui, ben, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Je ne sais pas, Corinne, si tu veux prendre la parole puis peut-être la préciser un peu.
Peut-être préciser, oui. Peut-être, oui, ou si elle veut préciser à l'écrit.
Bonjour, vous m'entendez?
Oui, on vous entend.
Bonjour. Oui, donc,
Bonjour.
j'ai commencé à travailler pour la politique de la ville de Lyon en 2007. Nous avons fait des diagnostics de territoire et nous étions financés par les hôpitaux de Lyon, des gens qui travaillaient d'une manière francophone entre Genève, Lausanne, le nord de l'Italie et le Canada. Et nous avions des contacts jusque dans les Appalaches à Wapaway. Et comme nous avons monté des projets en préfiguration de Marseille-Provence 2013, nous avions déposé pas mal de dossiers. Nous avons été en étroit lien par rapport aux collectivités locales et territoriales pendant un moment, jusque vers 2013-2014. Et là, il y a eu une réorganisation profonde en France, des institutions, de beaucoup d'éléments. Et j'ai perdu le contact avec des laboratoires de recherche, donc qui étaient très, très loin, notamment quand j'ai perdu, j'allais dire d'une manière complètement involontaire, deux ordinateurs, dont un qui m'était volé. Donc, j'ai perdu tous mes contacts avec des gens, des Appalaches, etc. Je voulais avoir de leurs nouvelles, savoir si le laboratoire de recherche de médiation continuait, perdurait, et si tout allait bien pour l'ensemble du Canada aujourd'hui.
Oui, ben c'est une grande question parce que le Canada est très grand aussi, mais je vous dirais, mettons au Québec, parce que c'est le monde francophone, donc peut-être que y a plus de personnes qui peuvent être des contacts. Ben, il y a le laboratoire sur les publics qui est à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a l'Observatoire des médiations culturelles dont je suis membre. Co-chercheur qui s'intéresse beaucoup aux questions de médiation culturelle. Donc, il y a un réseau qui peut être assez intéressant à ce niveau-là. Donc ces deux regroupements, en tout cas, desquels moi je suis plus proche et qui peuvent être intéressants pour la question sur laquelle vous m'amenez. Donc, peut-être je vous répondrai ça, mais les universités canadiennes, je vous dirais, sauf une, il n'y a pas eu de fermeture depuis 2015. Il y a un projet d'université canadienne francophone en Ontario qui a fermé. Mais voilà.
Merci. Noémie, si vous voulez prendre la parole.
Oui, je mets la caméra parce que comme ça, c'est un peu plus convivial. Déjà, merci beaucoup, c'était super intéressant. J'avais une question, moi, c'était plutôt par rapport justement à la posture du médiateur et au rôle de médiateur, parce que c'est une recherche qui avait l'air quand même assez expérimentale, où vous avez testé beaucoup de choses, et je me demandais, vous, personnellement, comment votre regard sur votre propre posture a évolué. Comment vous appréhendez votre rôle de médiateur maintenant et aussi par rapport à Execo, est-ce que la posture d'Execo a évolué avec ce projet-là et comment ça se met en pratique aujourd'hui?
Oui, c'est une très bonne question. La posture de médiation, je pense que Je pense qu'à travers les actions qu'on a fait avec Zeko, elle a évolué. Je pense que la posture de médiation a peut-être moins évolué dans ce projet-là, mais elle évolue à travers plusieurs projets dans les années précédentes. Là. Puis c'est au moment où on sentait que notre posture, nos approches, nos pratiques étaient assez bien établies, où est-ce qu'on avait assez d'outils, une communauté de pratiques assez forte, que là, on s'est dit, OK, bien, essayons d'appliquer ça dans un cadre de recherche-action. Mais bien entendu, on a aussi appris beaucoup de choses. Mais souvent, je vous dirais, moi, bien avant ce projet-là, quand je suis arrivé avec Zeko, rapidement, en allant faire du terrain, par exemple, en allant parler de justice dans des refuges pour personnes en situation d'itinérance, rapidement, j'ai réalisé que ce qu'on entendait par justice dans un cadre, par exemple, moi j'étais étudiant en philosophie en plus dans un cadre universitaire, c'était pas du tout ce que les gens dans le refuge qui étaient juste de l'autre côté de la rue entendaient. Donc d'un côté, il y avait conception idéale de la justice, de l'autre, conception, on pourrait dire, non idéale, là, c'est-à-dire la justice, là, c'est le système de justice. C'est pas quelque chose auquel on aspire, c'est quelque chose qui nous contraint puis qui nous suit. Donc c'est ce type de renversement, je pense que les médiateurs sont appelés à faire, c'est souvent finalement d'amener une proposition, puis après ça, de suivre les personnes qui sont présentes pour dans la manière dont elles se le réapproprient. Donc, c'est moins d'arriver avec une méthodologie qui est comme coulée dans le béton et qu'on ne pourra pas changer, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut, à travers une proposition, finalement, s'adapter. Nous, on appelait ça... je ne sais pas si l'expression existe en France, mais se tourner sur un dixaine, là, donc c'est-à-dire se faire un 180 degrés puis s'adapter complètement si, par exemple, on arrive avec une proposition puis que ça ne résonne pas du tout. Et donc, c'est souvent ça qui a été à l'œuvre dans le cadre du projet dont je vous parlais en termes d'approche méthodologique, d'outils proposés, de voir quand on vous propose d'aller dans ce sens-là, si ça vous tente, OK, on continue. Si... Ah non, ça ne vous intéresse pas, bien là, on trouve autre chose et on essaie de réinventer l'atelier sur le coup. Après ça, sur la posture générale d'Execo, je pense que au cours du projet, il y a eu des changements de posture qui sont liés beaucoup à ce qui s'est passé avec la pandémie, avec Black Lives Matter, avec d'autres événements au Québec. Ou est-ce que finalement ce projet-là, vous l'avez vu, il y avait une approche, disons, on pourrait dire transversale ou intersectionnelle, où est-ce qu'on visait à comprendre comment différentes formes d'oppression s'inscrivaient dans les milieux culturels. À la fin du processus, une des critiques qu'on a eues, qui était très légitime, c'était finalement parfois le fait qu'il y avait des dimensions spécifiques, des expériences spécifiques qui n'étaient pas nommées, mais qui étaient peut-être diluées dans l'ensemble des oppressions qui sont discutées. Donc, notamment sur la question du racisme systémique, le fait que par le processus de co-rédaction, le concept de racisme systémique n'était pas dans la charte, c'est quelque chose qui a été très justement critiqué. Le temps de latence entre la co-rédaction en 2019 puis le lancement en fin 2020, ça a aussi joué là-dessus, le fait qu'en un an, les compréhensions, les usages, les mots utilisés ont beaucoup évolué. Mais là, ça nous amène aussi à revoir certaines de nos approches, certaines de nos pratiques, se poser des questions finalement pour que nos, un peu dans l'optique d'évaluation évolutive dont je parlais, pour voir comment est-ce que dans nos prochains projets, on peut répondre, prévoir le coût sur ces éléments-là. Alors, là-dessus aussi, il y a une évolution de notre posture plus organisationnelle.
Peut-être pour préciser là-dessus, encore une fois, peut-être un exemple très concret d'une chose que vous faisiez au début dans les ateliers ou que vous avez pu faire et voilà, dont vous êtes aperçu que c'était pas du tout pertinent ou que ça fonctionnait pas ou voilà, dans l'évolution de vos pratiques, vous êtes rendu compte qu'il fallait plus faire ça. Est-ce que, voilà, si vous avez un ou deux exemples concrets, c'est pas évident, mais...
Oui. Ben, dans les ateliers, il y avait, bien entendu, tu sais, tantôt je parle d'exemple des personnes qui vivaient, qui sont sur le spectre de l'autisme, ou est-ce qu'il y avait des méthodologies axées beaucoup sur l'observation des personnes qui fonctionnaient plus ou moins, et on s'est ajusté en, on est davantage dans la documentation photo. Après ça, il y a aussi, comment dire, il y a aussi des approches plus générales. Donc, je vous ai montré tantôt, au début, on utilisait beaucoup des catégories. Diffusion, employé, artiste, qui était un peu un cadre d'analyse. Et plus on avançait, à la fois on réalisait que ces catégories pouvaient être un peu trop encadrantes. Il y en a qui ont été ajoutées à la suggestion des co-chercheurs. Mais plus on avançait, plus aussi les co-chercheurs prenaient confiance et ces catégories-là devenaient de moins en moins pertinentes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est aussi arrivé dans un mode plus libre de brainstorm d'éléments observés. Qui finalement enlevait peut-être des carcans, enlevait peut-être l'effet d'imposition de catégories que nous-mêmes, on pouvait amener dans les ateliers. Puis parfois, c'était aussi des niveaux de tolérance hein, face à tu sais, parce qu'on était dans un contexte de médiation culturelle où est-ce qu'il pouvait y avoir des publics avec des habitus assez différents. Puis parfois, ça a été aussi chez nous, dans l'équipe de médiation, de revoir nos niveaux de tolérance par rapport à des bris de code ou à des dynamiques pour laisser les choses se faire, puis finalement accueillir aussi des choses qui pouvaient nous rendre mal à l'aise, nous, dans l'équipe, mais qui faisaient partie des démarches des co-chercheurs dans leur manière à eux d'explorer les milieux culturels. Donc, ça peut être, par exemple, dans les premiers ateliers, on était plus tranquille, hein, mais après un an, là, les gens pouvaient courir dans les milieux si ça leur tentait, puis il n'y avait pas de problème pour nous. Ça pouvait poser des problèmes pour la sécurité, par exemple, de l'institution culturelle, que des jeunes se mettent à courir, mais c'était leur manière à eux de s'approprier l'espace. Et c'est pas ces jeunes-là qui doivent transformer qui ils sont pour rentrer dans le moule, finalement, de l'habitus des milieux plus classiques. Là. C'est ces milieux-là qui doivent aussi se transformer pour que les jeunes peuvent être qui ils sont réellement dans ces milieux-là.
Merci. Marie-France vous remercie déjà pour cette présentation très riche et nous demande, est-ce qu'à partir de cette expérience, vous envisagez de co-construire de nouveaux lieux culturels sur le mode participatif?
C'est une bonne question. Pas tant de construire des nouveaux lieux culturels. Je vous dirais que une de mes réalisations au bout de ce projet-là, c'est que ce projet était très centré sur des institutions, disons, qui sont établies, qui relèvent de la culture de la majorité. Je pense que ce qui se passe en ce moment, qui est très intéressant d'un point de vue d'équité, d'inclusion, d'accessibilité, c'est en tout cas au Québec l'émergence de nouvelles institutions culturelles qui sont plus petites, mais qui sont portées par et pour des personnes qui vivent différents freins, qui vivent des processus de minorisation, de marginalisation. Donc, je pense l'exemple de librairie est celui qui vient en tête le plus rapidement. Il y a, par exemple, deux librairies qui ont ouvert dans les dernières années à Montréal. Une librairie qui s'appelle Le Guillion, qui est spécialisée en littérature féministe. Une autre qui s'appelle Racine et qui est spécialisée dans des livres écrits autour des expériences de personnes noires ou racisées. Et ce type d'institution-là, pour moi, je pense que ça va être beaucoup plus porteur à long terme en termes de transformation de la culture, des pratiques, juste de transformer les institutions qui ont déjà une position établie. Il faut que ça se passe ça aussi, mais le danger, c'est que si on pense que c'est juste là que ça se passe, les voies vont toujours passer par le filtre, finalement, d'institutions qui ont une histoire longue, qui ça ne va pas prendre juste une génération pour transformer ces filtres-là. Et donc, c'est important qu'en même temps que ces transformations-là, disons, dans les institutions les plus centrales se passent, qu'il y ait d'autres institutions qui émergent en parallèle puis qui permettent à des groupes de parler de leur propre voix.
OK. Peut-être dans les 10 minutes qui nous restent, et puis s'il n'y a pas d'autres questions, je serais intéressée pour que vous présentiez très rapidement L'Observatoire des médiations culturelles, voilà comment ça fonctionne, sur que quoi il travaille, et voilà, est-ce qu'il y a des démarches participatives. Et puis peut-être nous dire deux, trois mots aussi d'Execo, les autres projets, enfin voilà, quelques exemples d'autres projets qu'ont pu être développés un peu avec le même type de méthodologie, parce que là c'était intéressant, on a pu décortiquer un projet en particulier, mais peut-être avoir voilà, une petite idée de ce que vous pouvez faire d'autre et ce qu'on peut trouver d'autre chez vous.
Oui, bien sûr. Donc, je commence avec l'Observatoire des médiations culturelles. L'Observatoire des médiations culturelles, c'est en fait la transposition d'un groupe de recherche en médiation culturelle qui était en place au Québec depuis plusieurs années. Donc, je pense que ça avait une dizaine d'années, ce groupe-là, et qui a été, à partir de 2019, qui a reçu une subvention du Fonds de recherche Société et culture du Québec pour se déployer comme un observatoire sur les pratiques de médiation culturelle, un observatoire qui est interuniversitaire, donc qui a un réseau de recherche vraiment qui s'inscrit dans plusieurs universités, dans plusieurs régions, qui va aussi dans lequel il y a aussi des membres co-chercheurs qui proviennent des milieux de pratique. Et un aspect intéressant, c'est que justement la direction de l'observatoire est une co-direction entre quelqu'un du milieu universitaire, quelqu'un des milieux de pratique, et c'est une co-direction qui a été tournante au niveau des milieux de pratique. Donc, moi, j'ai pris la première année. En ce moment, c'est ma collègue Gabrielle Desbiens qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui prend le volet milieu de pratique. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça évite justement l'effet dont on parlait tout à l'heure de hiérarchisation entre milieu de la recherche, milieu de pratique. Ensuite, si un observatoire s'intéresse, il y a des activités à chaque année, une programmation autour de trois axes, un axe davantage, un axe topo sur les lieux de la médiation, un axe praxis sur les types de pratiques, la manière dont les pratiques se déploient, se transforment, se réfléchissent, et un axe police sur finalement les enjeux politiques dans les pratiques de médiation. Et pour chacun de ces axes-là, il y a à chaque année un séminaire et une communauté de pratique, donc un événement qui s'adresse davantage au milieu de la recherche, un événement qui s'adresse davantage au milieu de pratique. J'ajouterais qu'en ce moment, il est en train de se développer une école d'été qui va être bientôt rendue publique. Donc, je vous le dis parce que peut-être certaines personnes seraient intéressées à s'y inscrire. Mais voilà. Et dans les événements, habituellement, on essaie d'avoir une approche participative, surtout d'avoir des moments participatifs en tout cas. Et un des bons défis, c'est justement de tisser les approches plus ancrées sur le terrain, des approches plus de recherche, pour qu'il y ait un bon équilibre, que tout le monde trouve sa place. Mais je vous dirais que ça se passe assez bien à ce niveau-là. Ensuite, pour Execo, eh bien, écoutez, Execo, on a vraiment... c'est sûr, le contexte de la pandémie est assez particulier, mais nos projets, comme je disais, c'est surtout en innovation sociale, utiliser les arts, la philosophie, les sciences sociales, les sciences humaines comme des leviers pour l'inclusion sociale. Donc, on a vraiment une variété de projets autour de missions aussi larges. On a eu pendant plusieurs années un réseau de bibliothèques dans des organismes communautaires. On a une caravane philosophique qui se promène dans le centre-ville, dans les quartiers montréalais, en fait, dans lequel il y a des livres, une bibliothèque, il y a des équipes de médiation qui animent dans l'espace public des ateliers, des micro-ateliers. Cette caravane-là est dirigée surtout pour les personnes qui vivent l'itinérance, mais aussi pour le grand public. On a des programmes de résidence artistique dans l'espace public qui visent à utiliser des approches d'art relationnelles. Dans le cadre de ces résidences-là, il y a déjà eu des projets de recherche participative donc, qui pourraient vous intéresser. Par exemple, un projet par une artiste, Marie-Claude de Souza, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Topoésie, qui était finalement une recension des noms informels, poétiques, qui étaient donnés à différents lieux publics montréalais. Donc, par exemple, dans le métro central de la ville de Montréal, il y a un banc rond que tout le monde appelle la POC, comme une POC de hockey, comme une rondelle de hockey. Donc, de venir recenser un peu cet imaginaire-là informel de l'espace, c'est un projet assez intéressant. Donc, ou un autre projet, plus recherche participative dans ce cadre-là, qui était d'amener des objets de la collection éducative du musée McCurn, un musée d'histoire sociale, dans des organismes communautaires, dans des organismes, par exemple, autochtones, d'amener des objets d'histoire sociale autochtones dans les organismes autochtones pour que c'est pour que les personnes puissent finalement se les réapproprier, les interroger, partager ce qu'ils connaissent autour. Et on a d'ailleurs plusieurs projets en milieu autochtone, axés beaucoup soit autour de programmes de pré-employabilité, autour de finalement des ateliers plus de participation citoyenne, d'esprit critique, soit axés dans du soutien pédagogique aux enseignants, enseignantes qui enseignent les langues autochtones. Donc, il y a différentes pistes à ce niveau-là aussi sur lesquelles on agit. Mais comme je vous dis, la mission est assez large et on a une volonté d'innovation sociale là, donc qui fait que ça peut aller dans beaucoup de sens en fonction des besoins, des problèmes sur lesquels on se penche. Voilà.
Parfait. Ben merci beaucoup pour cette présentation, voilà, à la fois très fouillée, très synthétique, très claire. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. N'hésitez pas à vous manifester maintenant ou à vous taire à jamais. Je pense qu'on va pouvoir, qu'on va pouvoir clore. Merci beaucoup. On a des retours très positifs. Voilà, j'enverrai évidemment, voilà, si vous le permettez, donc la présentation et puis différents éléments qui sont en libre accès, voilà, aux inscrits, aux inscrites à ce séminaire. Merci encore. Et puis voilà, on se retrouve avec ceux et celles qui le souhaiteront pour notre prochain séminaire le 6 mai prochain, où on sera donc avec les boutiques des sciences de Tunis et de Dakar pour là aussi des retours d'expérience qui promettent d'être intéressants. Merci beaucoup et très bonne soirée à tout le monde.